Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
10h47, on est sur le 83e congrès ici à Nantes, à la Beaujoire. Pour le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, inutile de dire que vu l'ambiance actuelle, il y a beaucoup à dire, et notamment sur le plan de la loi, sur le plan du logement, des politiques publiques bien évidemment. D'aucuns voudraient penser que le marché se régule par lui-même. C'est peut-être une volonté de ce gouvernement comme du précédent, en disant la vision schumpeterienne du logement se fera par lui-même. Je rappelle juste que ce qui fait le corpus de la du logement et de l'habitat et de l'urbanisme, ça reste quand même la loi. Et la loi, c'est quoi ? C'est la loi, ce sont les politiques qui la font. Et j'aimerais bien qu'on rétablisse l'équilibre. Alors justement, je profite de l'occasion, puisque il est un habitué de nos plateaux. C'est quelqu'un qui n'élude aucune question et qui répond directement. Ça nous fait du bien, politiquement, de temps en temps, de rencontrer des personnalités publiques et qui disent les choses haut et fort. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Bonjour.
Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous. Maire de Mennecy. J'aime beaucoup puisqu'il y a pas mal de projets en cours, notamment des projets culturels. J'aime beaucoup puisque vous publiez souvent, d'ailleurs, même sur Facebook, je trouve que c'est remarquable. Vous faites beaucoup penser au maire Baudet, justement, qui lui aussi n'est pas avare de postes sur Facebook. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous êtes président de l'établissement public foncier d'Île-de-France et vous êtes vice-président de la région en charge du logement. Alors, vous avez un regard sur le monde francilien, qui représente grosso modo un bon cinquième de la population française sur les 8 départements de l'Île-de-France. Bref, s'il y en a un qui est capable de parler de la politique du logement, c'est bien vous. Quand vous voyez aujourd'hui, alors je ne vais pas égrener tous les désagréments et les nouvelles qui n'en étaient pas d'ailleurs certaines, comme par exemple la restitution du CNR, d'une montagne qui a écouché d'une grenouille, de la lecture du projet de loi de finances dans lequel sur le logement il réduit encore une fois la portion congrue, que les prises de parole, ou même plutôt même les non-prises de parole, et notamment les dernières allocutions du président de la République, étaient où le logement était encore absent. Je rappelle juste que les taux d'intérêt ont augmenté d'environ 350 points de base, voire plus, sur seulement une année, qui a désolvabilisé une grande partie des primo-accédants, notamment les plus touchés. Je ne parle pas de la construction de maisons individuelles où c'est carrément la bérésina, on peut dire les choses comme ça. Un effondrement de la demande également avec la construction neuve qui est en chute libre, avec des chiffres très inquiétants. Comme moi, je suis depuis 30 ans dans ce métier, je ne l'ai jamais connu, avec moins de 40% pour certaines régions. Un désespoir absolu parmi les promoteurs, même si les promoteurs ne font jamais pleurer. En tout cas, on n'est pas loin de 700 défaillances d'entreprises depuis le 1er janvier 2023. Les sources, je les ai recoupées entre la FNAIM et la Fédération des promoteurs immobiliers. Pire que ça, ce qui est très inquiétant, c'est les chiffres avancés par Olivier Saleron, le président de la Fédération du bâtiment, avec la destruction à venir d'environ 125 000 emplois. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous êtes un homme politique. Quand vous voyez tous ces chiffres, vous qui êtes très accroché sur le logement et qui avez toujours eu ces idées-là, comment vous réagissez ? Dévasté, morose, fataliste ? Qu'est-ce qu'on fait là ?
Non, vous faites un constat qui est absolument catastrophique et qui correspond à l'état de l'Empire aujourd'hui. Ce qui est assez inquiétant face à cette situation, en fait, qui résulte d'une crise multifactorielle. On a une crise de la production, on a une crise de l'acquisition, on a une crise de l'argent et une crise du coût de production, pour simplifier les choses. Sur ces quatre crises, on en a une partie qui est conjoncturelle et une partie qui est structurelle. Ce qui, moi, m'inquiète énormément, ce n'est pas qu'on soit face à une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas le gouvernement souhaiter apporter de réponse à la mesure de cette crise. C'est l'absence de prise en compte d'une situation qui ne peut pas perdurer, qui ne se résoudra pas d'elle-même. En tout cas, sur les volets conjoncturels peut-être, sur les volets structurels, absolument pas. Un nouveau ministre du logement a été nommé au mois de juin. Le choix qui a été fait par Mathilde Matignon a été de réduire le portefeuille du ministre du Logement, quelle que soit sa qualité. La réalité est que le précédent avait le logement et la ville. Là, on a extrait la ville du secteur du logement, c'est-à-dire qu'on a réduit encore le champ, le portefeuille et le poids politique de celui qui, au sein du gouvernement, doit défendre le logement. Vous parliez du CNR. Le CNR, ça a été l'habillage d'un plan d'économie. Le CNR, c'est 4 milliards d'économies sur la politique du logement décrétée par Bercy, sur une politique qui est l'une des seules à rapporter de l'argent à l'État. Grosso modo, c'est 80 milliards de recettes pour 40 de dépenses. Et donc, sur cette politique qui structurellement rapporte de l'argent à l'État, et que Bercy, ne considérant le logement que comme un secteur où il y a de l'argent à récupérer, le CNR, ça a été un plan d'austérité en faveur du logement. Face à ça, la question qui va se poser très rapidement pour le nouveau ministre, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année et aux toutes premières semaines de l'année prochaine, la première, c'est combien de divisions ? Parce qu'on peut parler de ce qu'on veut, mais dans la vie politique, la question, à un moment, c'est qu'est-ce qu'on aligne ? C'est quoi les arbitrages budgétaires qui sont faits dans le projet de loi de finances 2024 ? Est-ce que le budget du logement est sanctuarisé ? Est-ce qu'il est renforcé ou est-ce qu'il est attaqué ? Et de ce point de vue-là, les premiers indices qu'on a ne sont pas forcément de nature à inciter à l'optimisme. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on est capable de lever un certain nombre de freins à la construction ? Il y a beaucoup de mesures qui pourraient être faites qui ne coûtent rien à l'État. On peut comprendre que l'argent magique n'existe pas, qu'il n'y a pas de planche à billets secrète à Matignon, que l'argent magique n'existe pas, qu'on est dans un pays qui a 3000 milliards de dettes et où le niveau d'endettement de la France n'est plus tenable. Enfin, quand on parle des questions d'intéresser les maires au travers des attributions de logements, quand on parle de plafonner le prix du foncier, quand on parle d'ouvrir à des emprunts non plus sur la personne mais portant sur le bien ou au développement du crédit in fine, on est sur des choses qui ne coûtent rien à l'État, qui permettraient de faciliter un certain nombre de processus, de détendre un peu les effets de cette crise. Quand on parle de la question du calendrier d'application du DPE, Bruno Le Maire l'a évoqué cette semaine, il a été tensé, il a été obligé de revenir en arrière sur ses déclarations.
Incroyable.
Et on sait qu'on est sur quelque chose qui, dans un schéma d'extrême tension sur le logement, bien sûr qu'il faut aller vers la sortie des passoires énergétiques, mais le calendrier qui est fait va avoir des effets sociaux dévastateurs. Tout ça, c'est des choses qui ne coûtent rien. Et moi, ce que j'espère, c'est que le nouveau ministre gagnera ses arbitrages budgétaires et sur au moins ces points qui ne coûtent rien à l'État, sera capable d'avancer beaucoup plus vite. Et puis, vous voyez, il y a quelque chose, en tant que maire, moi, qui me terrorise aujourd'hui. On a tué la construction du logement en France il y a 6 ans avec la suppression de la taxe d'habitation et son non-remplacement par un lien dynamique sur liant les recettes des communes aux arrivées de nouveaux habitants. Mais on est en train de tuer le logement social. Vous avez peut-être entendu parler de la réforme des attributions qui étaient en gestion et qui va passer en flux. C'est quelque chose de très technique, qui était prévu dans la loi Elan de 2018, qui était tellement impossible à mettre en œuvre que 5 ans après, seulement arrive cette mise en œuvre. Pour faire simple, c'est quoi ?
Pour qu'on comprenne bien, oui.
Aujourd'hui, sur du logement social qui se crée, déjà un maire n'a que 20% de possibilités d'attribution. C'est-à-dire que concrètement, 80% des attributions se font en dehors de la volonté municipale. Donc on demande à un maire de construire un immeuble. Il sait qu'aujourd'hui, au maximum, 20% des habitants seront des habitants de sa commune ou des familles d'habitants de sa commune. La réforme du flux, ça vient à priver les maires d'un minimum de 20% de ces 20%. C'est-à-dire qu'en gros, on va les descendre à 14 ou 15% de potentiel d'attribution. Bah, un maire qui n'attribue plus de logement social et dont les contingents de logements sociaux sont gérés par des préfectures pour attribuer du relogement en DALO, c'est un maire qui ne construira plus de logement social. Si cette réforme en flux est appliquée, c'est à 3 ou 4 ans la fin de la construction de logement social dans des communes qui ne sont pas pénalisées SRU, qui sont des communes résidentielles et qui comptent entre 25 à 30% de logements sociaux. Il n'y en aura plus.
Bon, alors, merci. Merci parce que vous avez fait une description au vitriol. On a tué le logement tout court, et on a tué le logement social. Vous êtes un homme politique, donc je peux me permettre de vous poser des questions d'ordre politique. Est-ce que vous espérez encore quelque chose de ce gouvernement concrètement ? Concrètement. Vous pilotez actuellement le plus gros établissement public foncier de France. On est d'accord là-dessus ? Vous pilotez la plus grosse région de France. On est d'accord là-dessus ? en charge du logement. Vous savez quoi faire. Ça fait 6 ans que je vous connais, ça fait 6 ans que je vous pose des questions et vous avez des idées extrêmement carrées. Moi, je voudrais juste que vous m'expliquiez, parce que c'est vous l'homme politique, pourquoi on a une surdité du gouvernement ou est-ce que, assumons, j'étais en train de me rappeler, vous savez, la phrase de Rocard, toujours privilégier l'hypothèse de la connerie, car elle est courante, car la théorie du complot demande un esprit rare. Est-ce qu'on a une classe politique ? Est-ce qu'on a une classe politique ? Il nous manque, hein, Michel Rocard. Est-ce qu'on a une classe politique qui est hors sol, qui se fout de savoir ce que vont devenir les Français, les 2,5 millions de Français inscrits sur des listes avec une détresse réelle vis-à-vis du logement ? Voilà, ce sont des questions normales. Vous avez évoqué, Jean-Philippe Dugoin-Clément, la bombe sociale. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous avez même été plus loin, vous dire, elle est là, elle va nous péter à la gueule. Enfin, je fais mon journaliste, mais bon, voilà, ça caricature un peu. Qu'est-ce qu'on attend là? On a un gouvernement qui attend que tout le monde descende dans la rue. Vous savez que quand on égrène, par exemple, les aides à la voiture électrique, il y en a pratiquement plus que pour le logement. Donc, c'est quoi l'avenir de dormir dans sa voiture électrique? C'est quoi?
Fondamentalement, je ne crois pas qu'on ait une classe politique hors sol.
Je vous provoque, mais voilà.
Non, mais vous avez raison. Et c'est des questions que se posent les gens. Donc, vous avez raison de les poser. Je pense qu'aujourd'hui, la classe politique n'est pas hors sol dans sa grande majorité. On a un vrai problème de représentation parlementaire où le non-cumul de mandats renforcé au phénomène de vague majoritaire sur la présidentielle fait qu'on a de plus en plus de députés, quel que soit le parti politique, qui sont des machines à lever la main, qui n'ont aucune autonomie, qui n'ont pas d'ancrage avec les réalités.
Wow.
Ça, c'est une première... Pas tous, mais beaucoup. On l'a vu lors de la dernière élection en 2017, avec beaucoup de députés de la majorité qui étaient totalement novices. On le voit aujourd'hui avec beaucoup de députés LFI ou Front National qui sont totalement déconnectés.
Jean-Philippe, excusez-moi, je vous coupe, mais juste pour bien comprendre, ce que vous voulez dire, pour ceux qui nous écoutent, c'est que le fait qu'on ait plus ce cumul de mandats a endigué ou a anesthésié la capacité libre et indépendante du député ?
Mais bien sûr. Vous avez des députés qui n'ont jamais été élus locaux, qui ne le seront jamais. Et au contraire, vous avez des élus locaux qui ne vont pas aller chercher des mandats parlementaires pour pouvoir garder leur exécutif, alors qu'ils y allaient avant, voire même quand ils vont chercher un mandat parlementaire dont les habitants ne votent pas pour eux, pour les garder comme maire dans leur exécutif. Donc la réalité, c'est qu'on a fait des députés hors sol au travers de cette réforme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que au-delà de ça, on a aujourd'hui un double facteur. On a des ministres du logement qui ont un poids politique trop faible. C'est pas lié à la personne du ministre du logement. Je le disais, on a au mois de juin trouvé le moyen d'amputer le portefeuille du logement de la ville, alors même que ça n'était pas suffisant. On est sur des ministres qui ne sont pas des ministres de plein exercice. Et donc quand vous êtes un ministre délégué ou un secrétaire d'État rattaché à un ministre, eh bien par rapport à Bercy, vous n'existez pas pour défendre vos arbitrages budgétaires. Quelles que soient vos compétences, vous n'avez pas de pouvoir. Vous en avez, mais c'est extrêmement dur parce que vous ne parlez pas d'égal à égal. Et c'est comme dans une entreprise, si vous discutez entre le N plus 1 et le N moins 2, eh bien le N moins 2 aura du mal à se faire entendre. Et le choix qui a été fait structurellement par le président et ses premiers ministres successifs n'a pas été de positionner le ministre du logement en situation d'exister.
Pour quelle raison ?
C'est un choix politique. Un Jean-Louis Borloo était ministre d'État, par exemple.
Oui.
Un Jean-Louis Borloo a eu la confiance de Chirac, c'est ce qui lui a permis de créer l'ANRU.
D'accord.
Aujourd'hui, nous n'avons pas, et c'est un véritable sujet, une prise de conscience que le logement est le premier poste de dépense des Français et la première... endroit où se joue le combat social, le combat du pouvoir d'achat de la part du président de la République et de son Premier ministre, enfin de sa Première ministre aujourd'hui, comme de ses premiers ministres successifs, qu'il s'agisse d'Édouard Philippe ou de Jean Castex, qui n'ont jamais misé là-dessus.
Je reviens sur la question. Je ne parle pas de la classe politique dans son ensemble, je parle de l'exécutif. Est-il hors sol ? Vous les connaissez, les chiffres ? Qu'est-ce qu'on attend que ça pète ?
Mais l'exécutif...
Non, mais qu'est-ce qu'on attend ?
Mais l'exécutif, aujourd'hui, ne prend pas en compte la gravité du logement. Pour eux, c'est une question qui est accessoire, alors que c'est un sujet qui est majeur. Moi, je passe mon temps à tirer la sonnette d'alarme. Je fais partie de beaucoup
Bien
de
sûr.
Gens, comme beaucoup d'élus locaux, comme beaucoup d'acteurs du logement, qu'il s'agisse du logement social ou privé, qui disent qu'on va dans le mur, qu'on y va en klaxonnant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un impensé politique. Le logement est devenu quelque chose qui est analysé sous forme budgétaire, sous forme technique, mais non pas sous forme sociétale. Le logement, pourtant, c'est la seule chose avec l'éducation l'éducation nationale qui conditionne absolument intégralement un parcours de absolument vie. Et aujourd'hui, on n'examine pas absolument le logement sur une question transversale. On ne l'imagine pas comme une possibilité d'émancipation
c'est
des
gens.
C'est
un marqueur social.
Malheureusement, ça ne l'est pas pour le sommet de l'État aujourd'hui.
C'est très clair. Vous allez rester pendant tout ce congrès, bien évidemment, apporter vos lumières sur la question. Dernière question. On le voit, la question, vous avez parlé de la question de rénovation énergétique. Je voudrais juste qu'on refasse un focus là-dessus. Le calendrier est pressant. On a parlé de rétropédalage entre Bruno Le Maire qui dit « à titre personnel, j'y suis favorable » et ensuite et qu'il corrige deux jours après là-dessus. Est-ce que ça veut dire finalement que quand on sera face à l'échéance des étiquettes F et G entre 2025 et 2028, est-ce que vous pensez très franchement, en 2025, à mon avis, on aura encore cet exécutif, mais en 2028, les choses seront certainement très différentes.
On a vu sur les zones à faible émission qu'il y a des reports qui sont mis, que les calendriers sont intenables, et on a exactement la même chose. Vous savez, en Île-de-France, c'est, oui, à 2034, c'est la moitié du parc locatif qui n'est plus louable.
On est d'accord.
La moitié à 10 ans.
Vous vous rendez compte ?
C'est totalement.
C'est phénoménal. Merci Jean-Philippe Dubois. C'est toujours intéressant de parler avec vous. Ça fait du bien parce que vous dites les choses. Hein. On a des gouvernements qui ont tué l'immobilier. Je reprends vos paroles là-dessus. Et d'ailleurs, on va poster en fonction Jean-Philippe Dubois-Clément, vice-président de la région Île-de-France, qui pilote et est le président de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et il est maire de Mennecy. Je vous avais promis qu'on fera un plateau. On va venir faire un plateau. En plus, vous avez des nouveaux théâtres, des nouvelles installations. Vous n'arrêtez pas. Merci Jean-Philippe Dubois-Clément. Et on continue. Il est 11h03 à nos programmes. On va parler du BRS dans quelques instants.
Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.